Suzanne chérie, Suzanne de l'été, chère Madame S, Suzanne du Mistral, Suzanne du mercredi, Suzanne de la nuit, Suzanne de midi pile, Suzon, Suzy, Mademoiselle Su, Suzanne de 6h du mat, qui ne rêverait pas d'avoir pareille confidente ? De vive voix.
Chantal Leroux.
Bienvenue dans De Vive Voix, où l'on est ravi d'accueillir aujourd'hui la grande Sophie. Bonjour.
Bonjour.
On connaissait la musicienne, chanteuse, autrice, compositrice. On découvre aujourd'hui l'écrivaine avec Tous les jours Suzanne, paru aux éditions Phébus. Un livre à votre image, sincère, drôle, touchant. Un livre très personnel où vous racontez les coulisses de votre vie d'artiste, mais aussi vos souvenirs d'enfance et votre parcours de femme, à travers plus d'une centaine de lettres adressées à Suzanne. La Suzanne de la dernière chanson de l'album La Place du Fantôme, victoire de la musique en 2013. Sophie, comment vous est venue l'envie, l'idée de vous raconter à travers une correspondance adressée à la fameuse Suzanne de votre chanson ?
Alors déjà, l'envie, elle vient d'un besoin de se confier, d'un besoin de décrire ce qui se passe. Il y a eu plusieurs périodes d'écriture, puisque la chanson Suzanne était une lettre à la base, où il s'était passé un événement dans ma vie que je raconte dans le livre, où je cherchais une confidente, et cette confidente a été cette Suzanne. D'une lettre, j'en ai fait une chanson, et après, j'ai laissé passer les années, j'ai chanté beaucoup, chaque soir de concert, j'ai chanté Suzanne, qui recevait un écho très particulier auprès du public, puisqu'il remportait l'applaudimètre. Et j'avais cette intimité aussi avec ce fameux personnage. Et j'ai ressenti le besoin de lui réécrire ces dernières années par rapport à ce qui se passait encore une fois dans ma vie. C'est toujours un besoin, l'écriture, de raconter une époque aussi, de raconter comment peut se comporter un entourage par rapport aussi à l'âge d'une femme. Et j'ai eu besoin de raconter et de revenir sur tout mon parcours.
Vous avez toujours aimé ce format, les échanges épistolaires ?
Depuis l'enfance, oui. Oui, j'en ai toujours eu, aussi bien quand je partais en vacances que je me faisais des amis. Il y avait toujours cette trace qui restait à travers les lettres. Et plus tard, ça m'a toujours accompagnée, puisque j'ai poursuivi des correspondances encore avec mes amis lors de vacances, aussi avec Françoise Hardy, que j'ai rencontrée.
On va y revenir tout à l'heure.
Voilà, la première approche avec Françoise Hardy a été la lettre.
Et vous racontez que lorsque vous étiez enfant, l'arrivée d'une lettre à la maison, c'était tout sauf banal.
Oui, c'est quelque chose que j'attendais, que je déployais avec presque un rituel. C'est vrai que j'aimais sentir les lettres, j'aimais moi-même les parfumer. J'aimais décacheter une enveloppe, déplier le papier, regarder l'écriture. Et récemment, quand je raconte que je mets dans le livre la lettre de ma grand-mère, mais j'ai eu besoin de la retrouver, cette lettre, donc j'ai parcouru toutes les lettres que m'avait envoyées ma grand-mère et je me suis rendu compte à quel point l'écriture, une lettre comme ça, aussi banale soit-elle, pouvait positionner la personne qui écrivait à côté de vous, même si elle n'est plus. Et ça m'a bouleversée, en fait.
Vous pouvez nous dire ce que vous ajoutiez à 12 ans au dos de vos enveloppes, pour l'anecdote?
Je crois que ceux de cette époque s'en souviendront, c'était « Petit facteur, presse le pas, car l'amitié n'attend pas ».
Et l'amitié, c'est quelque chose qui est sacré dans votre vie.
Oui, je crois que tout le monde a envie d'avoir des amis, au moins. Alors, on les compte, moi je les compte, c'est vrai, sur le doigt d'une main, de deux mains, on va dire. Non, de deux mains, j'élargis quand même. Et ce sont des relations particulières qui durent dans le temps. J'aime, de toute façon, moi je suis quelqu'un qui aime la fidélité, en amour, en amitié, voilà, et j'aime la longueur.
Oui, 35 ans avec votre mari.
Oui, 35 ans, avec des points d'exclamation. Tu te rends compte, Suzanne, je lui dis.
Vous écrivez en exergue votre livre. Est-ce que tout le monde éprouve le besoin d'écrire pour se raconter ? Peut-être est-ce une façon de se rassembler pour ne rien perdre ? Nous avons tous besoin d'une oreille supplémentaire. À toi, Suzanne. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce livre, Tous les jours, Suzanne, a été une forme de thérapie pour vous ?
Alors, certainement. Je connais pas vraiment les thérapies, j'en ai jamais suivi, mais c'est peut-être ma manière à moi. C'est aussi, je fonctionne beaucoup comme ça, j'aime bien trouver des solutions au fond de moi, avant d'aller m'adresser, alors là, je m'adresse à Suzanne en lettres, mais c'est moi qui fais l'effort. Et c'est important, ça, dans ma vie, de faire l'effort, aussi bien pour écrire une chanson, avoir la satisfaction d'avoir fini une chanson, que pour, quand ça va pas bien, bah, essayer de trouver des solutions pour que ça aille mieux.
Et le format chanson ne suffisait plus pour vous exprimer? C'était trop court?
Disons que j'avais aussi envie d'aller plus loin dans l'écriture, d'essayer de me renouveler aussi bien sur scène que de passer à un autre format que l'écriture d'une chanson et sans la musique. Parce que moi, je trouve beaucoup mes mots grâce aux notes. Et là, l'idée, c'était d'essayer de faire sans les notes et de me retrouver complètement mise à nu. Parce que c'était réellement ça, j'ai eu assez peur, je dois dire, d'être peut-être trop impudique. C'est la question que j'ai posée régulièrement à mon éditrice.
Oui, parce que vous êtes quelqu'un, effectivement, d'un petit peu réservé, de très pudique. Et là, vous vous dévoilez, on vous découvre beaucoup plus fragile que ce qu'on imaginait. Est-ce que vous vous êtes fixé des limites ou est-ce que vous avez joué le jeu? Est-ce que vous vous êtes vraiment laissé aller?
Les limites, pour moi, c'était mon parcours. C'est-à-dire que je ne raconte que ce qui est lié à mon parcours. Même quand je reviens sur mon enfance, la famille, c'est comment j'ai eu envie d'être chanteuse, quel était le milieu social. Et même quand je parle de... Vous voyez, tout ça, c'est lié à mon parcours. Quand je parle même de mon grand amour, 35 ans, on a dit, il est également lié à mon parcours parce que c'est un homme qui a choisi de me suivre et de faire que je sois la plus heureuse possible, alors que souvent, ce sont les femmes qui suivent leur mari. Donc, j'ai voulu mettre dans ce livre vraiment toutes les personnes liées à mon parcours.
Regarde-moi, j'ai bien changé, Suzanne. J'ai viré de l'autre côté de mon île. Suzanne, la mer est haute, rien n'est tranquille. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'a pris? Et quand j'y pense, comment te dire ce que j'entends?
La grande Sophie, invitée de Deux Vives Voix sur RFI. Sophie, vous avez commencé à écrire ces lettres à Suzanne alors que la cinquantaine approchait. Mon âge, avez-vous dit, est un âge ingrat dans la vie d'une femme, surtout dans la musique. Pourquoi surtout dans la musique?
Parce que c'est un métier très jeune, où on croise beaucoup, beaucoup de jeunes. Et on vous fait comprendre assez rapidement. Bah, moi, déjà, j'ai eu cet écho, j'en parle dans le livre, à 28 ans, lors d'un festival, un producteur vient me parler, il me dit « trop vieille ». Il me demande mon âge, il me dit « trop vieille ». Donc, ce sont des flèches qu'on reçoit. Et moi, comme je voulais faire ça depuis l'enfance, rien ne pouvait m'empêcher. Je pouvais abattre des murs, jusqu'à ce que tout ça résonne encore avec les années et que, finalement, ça me déstabilise. déstabilise un peu. D'où le besoin de réécrire et de me réapproprier tout ce que j'avais fait, me dire « mais enfin, tu es une autodidacte et tu as pu faire tout ça, donc tu peux continuer et ne te laisse pas atteindre par tous ces discours ». Mais ce sont des discours, évidemment, qu'on entend beaucoup, très insidieusement d'ailleurs. C'est pas dit frontalement, mais on vous fait remarquer les choses, le vocabulaire change. Et je me suis rendu compte, en fait, une fois que le livre a été publié, que les lectrices aussi s'en sont emparées, que ça faisait écho à d'autres métiers. Donc je ne suis pas la seule et c'est très... Je pense que c'est la société qui a du mal à accepter qu'une femme prenne de l'âge. En général, qu'une femme est un homme, mais on sait très bien que les femmes sont des degrés beaucoup plus intenses au niveau des réflexions.
Et puis, il y a aussi un autre aspect. Dans mon métier, expliquez-vous à Suzanne, tout le monde fait bonne figure, on ne parle pas d'échec. L'échec fait fuir et tient à distance. Pourtant, il y a des hauts et des bas, c'est une réalité. Et je crois que personne n'y échappe. Vous avez vraiment pensé à tout arrêter ?
On se pose la question, alors réellement oui, parce que ça m'atteignait, je me suis dit mais vous savez quand on vous dit, quand vous êtes pleine de bonne volonté et que vous avez envie de faire des choses même sur les réseaux et quand on vous dit comme ça froidement, vous n'êtes pas de la génération, tu n'es pas de la génération Z, moi qu'est-ce que je réponds? Je dis mais alors je fais quoi? Je creuse ma tombe et je me mets à l'intérieur? Non. Non, je dis non à tout ça et ce livre est porteur d'espoir par rapport à tout ça aussi.
Oui, c'est le message que vous aviez envie de faire passer à travers ce livre aussi.
Oui. C'est l'espoir avant tout. Attention, c'est un livre rempli d'humour qui raconte des situations assez pittoresques. Mais c'est aussi dire que, vous savez, si vous avez des envies, continuez et suivez vos instincts.
Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Baudane, Jacques Demy, on va tout de suite comprendre pourquoi ce petit clin d'œil. Sophie, vous pouvez nous lire cette lettre, la troisième que vous écrivez à Suzanne et qui donne parfaitement le ton de votre livre.
Cher S, te souviens-tu des robes que portait Baudane ? Je les aimais toutes. Qu'est-ce que j'ai pu regarder ce film de Jacques Demy ? Enfant, je voulais que ma vie soit une comédie musicale. Je voulais un âne qui défèque des pièces d'or dans mon jardin. Je voulais ressembler à Catherine Deneuve. Mais je n'étais pas blonde. Petite fille, oui, j'ai été petite. Elle me fascinait. Elle incarnait ce qui semblait être l'inverse de mon quotidien. Son allure sophistiquée contrastait avec mes chaussures orthopédiques, les Doc Martens de ma mère, les salopettes de mon père. Son brushing était mon fantasme révolutionnaire pendant que mes parents nous emmenaient faire la marche du plateau du Larzac. Oui, j'ai fait le Larzac en août 1977. Je venais d'avoir 8 ans. Les manifestants ressemblaient tous à mes parents. Des hippies qui brandissaient des slogans antimilitaristes. Je ne me souviens pas de tout, je suivais. Un enfant n'a que ça à faire, suivre ses parents. Il faisait très chaud. Des toilettes provisoires avaient été échafaudées avec des bottes de foin et des planches. J'avais peur de tomber dans le trou. On a dormi et campé sur place, sous la canadienne, avant de repartir dans notre Méhari orange. Un vrai tape-cul avec lequel on a parcouru de nombreux kilomètres. Même dans ces moments-là, l'espoir de rencontrer Catherine Deneuve m'a accompagnée. Je m'inventais des prières imaginaires. Je me donnais des gages. Si je n'avais pas touché 3 fois la porte avant qu'elle ne se ferme, j'amenuisais mes chances de l'apercevoir un jour dans ma vie. Je glissais toujours une photo d'elle dans ma trousse et quand je déballais mes affaires en classe, mon héroïne apparaissait. J'avais des étoiles plein les yeux. Je connaissais mieux sa filmographie que n'importe laquelle de mes leçons. Je m'amusais même à signer de son nom. À 12 ans, je me suis mise à lui écrire à l'agence Armédia pour recevoir des dédicaces. Lorsque le portrait arrivait chez moi après de longues semaines à guetter le courrier, Paris entrait dans ma chambre et l'illuminait.
Sophie, c'est un extrait de Tous les jours Suzanne. Alors, la comédie musicale Peau d'âne vous faisait rêver lorsque vous étiez petite. Et aujourd'hui, vous avez votre petite comédie musicale puisque vous avez demandé à Johanna Boyer d'adapter le livre Tous les jours Suzanne pour la scène. Et vous avez présenté ce spectacle en février à la Maison de la Poésie à Paris avec des robes dignes de Peau d'âne.
Oui, c'est vrai que c'était mon fantasme. Et ce spectacle est très différent de tout ce que j'ai fait auparavant, puisque c'est... Alors, j'avais déjà fait des seuls en scène, mais mise en scène comme ça par une metteuse en scène qui vient du théâtre, jamais. Et je peux vous dire qu'au départ, ça a été très effrayant pour moi, parce que je ne savais pas si j'allais y arriver. Et c'est aussi être vue par un œil extérieur qui vraiment regarde tous les détails. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour moi, dans ce que je vais même pouvoir faire dans le futur. C'est, oui, je la considère comme ma comédie musicale à moi. Il y a des petites chorégraphies. C'est très vivant. C'est beaucoup plus qu'une lecture musicale. Je lis en effet des lettres, mais j'en connais certaines par cœur. Je chante aussi. Je reviens sur beaucoup de mes chansons et j'amène aussi, par exemple, le spectateur sur des choses qu'il ne voit pas normalement. Par exemple, je lui dévoile la maquette de Du Courage.
Et on voit donc comment se crée une chanson.
Exactement. Aussi, je raconte comment moi, je fonctionne pour écrire une chanson.
Et vous faites participer le public. Vous proposez un blind test qui a beaucoup de succès.
Oui, c'est le blind test. C'est les chansons que je chantais à l'époque quand j'étais étudiante pour gagner un peu d'argent de poche. J'allais sur les plages de la Pointe Rouge à Marseille. Et puis, je me lançais comme ça avec ma guitare. Et je fais découvrir aux gens les chansons que je chantais. Ils sont assez balèzes d'ailleurs. Ils ont une bonne mémoire des chansons de cette époque-là.
Donc, il y a Prince.
Oui, il y en a. Alors, j'essaie de varier aussi. Je varie aussi parce qu'à l'époque, j'apprenais les tubes, les chansons qui me plaisaient. Et j'aime bien offrir des bonbons.
Oui, aux gens qui ont bien chanté. Et le public connaît par cœur, par exemple, c'est plus étonnant, une vieille chanson française, oui. Mon amant de Saint-Jean.
C'est vrai que je suis très surprise à chaque fois parce qu'ils connaissent vraiment les paroles par cœur.
Mais peut-être parce qu'elle a été reprise aussi depuis par Patrick Bruel, notamment.
Aussi, c'est une chanson qui fait partie du répertoire français assez connu. Mais c'est surprenant, c'est toujours surprenant quand même. Parce que c'est Lucienne de Lille et il trouve aussi Lucienne de Lille.
Absolument. On retrouve aussi votre sens de l'autodérision lorsque vous vous lancez dans une prestation en yaourt. Parce que vous êtes, il faut le savoir, une yaourt glotte. J'aimerais que vous nous lisiez ce nouvel extrait de Tous les jours, Suzanne.
Dear Suzanne, je parle le yaourt avec une aisance déconcertante. Je suis yaourt log. Comme une grande oratrice, je le brasse, je l'arrondis au fond de mon palais. Là, par exemple, j'essaie d'avancer ma chanson et je nage la brasse coulée. Chacun voit midi à sa porte. J'ai des doutes sur ce titre qui, entre nous, n'est pas spécialement beau, mais l'expression me plaît. J'ai réécouté les essais que j'avais enregistrés sur mon téléphone. J'en ai effacé la moitié et j'ai empoigné ma guitare. Pour trouver mon texte en français, je passe par ce que l'on appelle le « yaourt » dans le jargon. J'invente des mélodies en me prenant pour une anglo-saxonne. Je me lance, j'improvise, je tente. Je t'envoie un audio pour que tu aies une idée. Je fais ça parce que la langue est ronde et élastique. Elle rebondit dans ma bouche. Je dis absolument n'importe quoi. De temps en temps, je place un vrai terme anglais. Mais si une phrase déboule en français, je garde. C'est bon signe. Ça ne vient jamais au hasard. Ce sont des thèmes que je voulais aborder. Le français n'est pas toujours évident, bien que ce soit ma langue maternelle. Elle est plus sèche, plus anguleuse que l'anglais et plus souple. Elle est tout de même belle et douce et c'est un plaisir de chercher les mots justes, ceux qui sonnent sur la musique et vont se fondre en rythme. C'est compliqué une chanson. L'angle est important et on doit tout dire en quelques minutes. Un vrai sprint. Pas un marathon. Le marathon, c'est la carrière. Et ça, encore une autre histoire.
Vous faites parfois des reprises en anglais, mais vous n'avez jamais eu envie d'écrire des chansons en anglais ?
Alors, j'en ai écrit une pour l'anniversaire de Lee Hazlewood, celui qui a écrit « These Boots Are Made for Walking ».
C'était la fameuse chanson de Nancy Sinatra.
Que chantait Nancy Sinatra, un tube indémodable. Et comme c'était son anniversaire et qu'il m'avait invité à chanter sur un album de duo, pour le remercier, pour ses 77 ans, j'avais tenté d'écrire une chanson en anglais que je lui avais envoyée.
Et comment avez-vous choisi les chansons de ce spectacle « Tous les jours, Suzanne » ?
Alors, ça a été très compliqué parce que je voulais vraiment revenir sur pas mal de chansons et il fallait faire un choix parce que 9 albums, c'est beaucoup. Donc, je ne les chante pas forcément tout en entier non plus. Mais évidemment, j'ai gardé celles aussi que connaissent les gens. J'ai essayé de faire écho à l'histoire aussi, de coller à l'histoire. Donc, il y a aussi 3 nouveautés d'ailleurs. Trois nouveaux titres, un titre qui parle de ma guitare, un duo avec Philippe Catherine aussi. Et voilà, ça a été un savant mélange en fait. Parce qu'il y a aussi beaucoup de musique, j'ai travaillé aussi des thèmes musicaux. Ça, c'était important pour moi aussi par rapport au travail que j'avais fait sur des musiques de téléfilms. Je voulais que lors de lecture de lettres, il y ait ces mélodies qui soient derrière aussi, qui accompagnent les lettres.
Et parmi les incontournables de votre répertoire, il y a du courage.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. De soi que l'on porte au bout des doigts, de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver
du courage, du courage, du courage, du courage.
Courage, la grande Sophie, extrait de l'album « Et si c'était moi », sorti en 2005. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sophie, à 22 ans, vous avez reçu une lettre terrible de votre grand-mère, Mamie Simone. « Ma petite Sophie, tu me causes bien du souci avec ce drôle de métier chanteuse. Tu te rends compte, ce sont les femmes de mauvaise vie qui en arrivent là. Ce n'est pas très honorant. Toi qui étais si mignonne et si jolie quand tu étais petite, maintenant, voilà la chanteuse, j'ai honte. » Comment avez-vous réagi à cette lettre très violente ?
Ma grand-mère a toujours été particulière, mais j'arrive à comprendre avec les années pourquoi, parce qu'elle avait peur en fait pour moi. Elle n'avait jamais pu faire le métier qu'elle souhaitait faire, elle voulait être institutrice. Donc pour elle, c'était, elle a toujours eu un caractère comme ça,
bien trempé,
oui, mais parce qu'elle a toujours été très malheureuse en fait. Donc je lui pardonne tout ça, chacun, vous savez, mène une vie qu'il ne souhaite pas toujours. Et par contre, ça a créé des soucis. Ma mère l'a très mal vécu, cette lettre, elle se sent fâchée à cause de ça. C'est vrai que cette lettre a été assez violente, mais encore une fois, comme je vous le disais, rien ne pouvait m'arrêter. Moi, j'ai eu la chance, en revanche, d'avoir des parents qui m'ont accompagnée.
Bienveillants, qui vous ont soutenue toujours, qui ont respecté vos choix.
Oui, qui ont respecté mes choix par rapport aussi à peut-être ce qu'ils avaient vécu dans leur vie. Et je le dis d'ailleurs, je suis la première à avoir choisi le métier que je voulais faire. Donc ça, c'est ce qui compte. Finalement, et je les en remercie d'ailleurs, mes parents étaient super pour ça.
J'ai ouvert l'émission avec les surnoms tendres ou savoureux que vous donnez à Suzanne à chaque fois que vous lui écrivez. Les surnoms, c'est une passion pour vous.
Oui, j'adore donner des petits surnoms. J'ai beaucoup changé les noms aussi, même de mon entourage. J'aime bien changer les noms, m'approprier en fait. Oui, c'est un signe affectif.
Même et votre mari qui s'appelle en réalité Patrice.
Il s'appelle Bob. Voilà. Moi, je l'appelle Bob. Et c'est vrai que souvent, les gens, il y a confusion parce que son état civil, c'est Patrice, mais il devient Bob dans mon entourage, en fait.
Et comment surnommez-vous votre amie Jeanne Gérald ?
Gianna de la Parmigiana.
Pourquoi ?
Parce qu'on a fait un voyage ensemble en Italie qui était assez rocambolesque. On est arrivé, on a débarqué en Italie et on était à Naples. Nos valises n'ont pas suivi. On s'est retrouvés sans rien, à devoir chanter le lendemain. Heureusement, 2 heures avant, nos valises sont arrivées et on se donnait des petits surnoms. Moi, j'étais Sophia de la Quiche Lorraine.
Et si on écoutait Jean, premier single extrait du nouvel album de Jeanne Chéral, attendu pour le 4 avril. Jean en playlist RFI ce mois-ci.
Jean, j'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. connu des plus forts que vous, Jean. N'ai connu des plus beaux que vous, Jean. N'ai connu, mais il n'était pas vous. Jean, j'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. Jean, tant d'ici votre rire d'argent qui scintille idyllique et charmant.
Jean, le nouveau titre de Jeanne Chéral. Sophie, vous publiez dans l'une de vos lettres à Suzanne un échange épistolaire avec Françoise Hardy, qui ne manque pas d'humour. Elle était pourtant difficile à apprivoiser, Françoise Hardy.
Pas tant que ça, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été direct et qui répondait spontanément. Et en fait, la première fois moi, que je lui ai écrit, bah, elle n'a pas tardé à répondre. Je l'ai trouvée très naturelle.
Et vous dites que vous avez mis du temps avant de la tutoyer.
Oui, déjà avant de la rencontrer, puisque j'étais impressionnée par l'icône. Et j'ai eu besoin de passer par la relation épistolaire. Et puis, la tutoyer, ça a pris encore notre temps. Oui.
Est-ce que c'est l'une des rencontres les plus marquantes de votre parcours professionnel ?
Oui, parce que j'adore sa chanson, j'adore ses chansons, j'adore sa voix aussi. C'est l'intimité pour moi de la musique française, Françoise Hardy. Et puis qu'elle soit aussi accessible, comme je vous le disais, c'était quelqu'un de... Voilà, qui disait les choses très honnêtement. Et c'est assez rare dans ce métier, en fait.
Vous lui avez écrit une magnifique chanson, Le Large, qui sonne comme un testament, mais ce n'était pas votre intention au départ.
Mon intention dans une chanson, j'aime bien qu'il y ait plusieurs angles. Françoise, quand on
des
a
doubles
rien,
sens,
voilà
hein.
Des doubles sens. Pour moi, prendre le large aussi, c'était s'éloigner du métier. Mais elle a pris le côté plus morbide parce que aussi elle avait traversé la maladie. Sa maladie reprenait en plus, donc je comprends qu'elle ait pris ce côté-là. Mais ma chanson est plus ouverte que ça.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Sophie, vous terminez la dernière lettre de votre livre avec ces mots « Tous les jours Suzanne va devenir tous les ans Suzanne ». Pourquoi est-ce une victoire d'écrire de moins en moins souvent à Suzanne ?
Parce que je n'ai pas un tempérament addictif dans la vie. Et là, je sentais que l'écriture prenait beaucoup de place. L'écriture à Suzanne commençait à prendre toutes mes journées et ça commençait à m'inquiéter. Donc j'ai décidé d'espacer pour aussi réécrire des chansons, pour m'ouvrir à d'autres.
Ça ne veut pas dire que... Moi, je l'ai pris comme si vous alliez de mieux en mieux et que vous aviez de moins en moins besoin d'une oreille attentive.
Peut-être que j'avais aussi fait le tour de tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'étais revenue sur beaucoup de choses qui m'avaient réconfortée.
Donc, il était temps de,
voilà.
De partir
après,
dans
de repartir
une nouvelle aventure.
Sur scène et très différemment.
De vive voix touche à sa fin. On avait aujourd'hui pour invité la grande Sophie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je renvoie nos auditeurs et auditrices à votre livre biographique « Tous les jours Suzanne » paru chez Phébus. Un livre qui vous a inspiré un spectacle musical intimiste à découvrir le 6 mars et le 10 avril à la Maison de la Poésie à Paris.
C'est complet,
et ensuite en
c'est
région.
Complet.
Alors pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir pris leur billet à temps, il restera le 14 octobre au Théâtre de l'Atelier voilà. À Paris.
Et puis sur mes réseaux, je mets
dates
toutes les...
en France.
Il y en a beaucoup, oui, il y en a pas mal dans toute la France.
Merci à Guillaume Buffet à la réalisation et à Cécile Lavolo et Raphaël Pluxva à la coordination. À bientôt, portez-vous bien.